Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hurung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Organisation à Kinshasa en octobre prochain du 14e sommet de la francophonie. À ce jour, où en sommes-nous avec les préparatifs et que gagnerait la RDC à travers cet événement? Nos invités pour parler de ce sujet sont professeur Isidore Ndaiwel, commissaire général du 14e sommet de la francophonie Kinshasa 2012. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Madame Angèle Makombo, membre de l'opposition et présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais. Madame Makombo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Jean Bosco Pouna, président du réseau national des professeurs et enseignants de français. Il va également nous rejoindre dans un tout petit moment. Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. César de Bouillon en province orientale. La tenue de ce sommet en RDC est une occasion pour le peuple congolais de se faire respecter, non pas dans l'organisation d'une fête pour impressionner les yeux du monde, mais surtout pour une prise de conscience sérieuse dans la revalorisation de sa culture et l'amélioration de l'enseignement à tout prix. Franklin Kandulu de Kikwit Obandundu. La francophonie n'a vraiment rien à offrir aux Congolais. Cette rencontre ne donnera lieu qu'à une campagne médiatique pour ceux qui sont au pouvoir. C'est votre émission, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 14e sommet de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 12 au 14 octobre 2012. Il sera organisé après le 13e sommet qui avait été organisé à Montreux en Suisse en 2010. À cet été à Kinshasa, plusieurs sites sont retenus par le Comité national d'organisation pour abriter cette activité politico-culturelle internationale. La Cité de l'Union africaine, le Théâtre de Verdure, l'immeuble CTIC, le Stade des Martyrs et le Palais du Peuple sont les principaux sites concernés. Mais dans quel état se trouve-t-il actuellement, Michel Kikindangos?
Tout d'abord, à la Cité de l'Union africaine destinée à accueillir les personnalités des marques, le site est bien entretenu. Réhabilité lors des festivités du cinquantenaire en 2010, cette cité présidentielle de plus de 40 villas, une clinique hospitalière et quelques bâtiments administratifs est fortement sécurisée par la garde républicaine. Au parc présidentiel du Mont Galiema, le théâtre de Verdure est en pleine réhabilitation. Ensuite, L'immeuble CCIC dans la commune de la Gombe est aussi transformé en un véritable chantier. Ce site sera transformé en un hôtel 5 étoiles. Enfin, dans la commune de Lingwala, les sites choisis ne vibrent pas encore au rythme du sommet de la francophonie. Au Palais du Peuple, où aura lieu l'ouverture officielle et les conférences des chefs d'État, aucun travail n'est encore entrepris. Toutefois, le site est bien entretenu. Cependant, le stade de martyrs qui abritera les expositions culturelles se trouve loin d'être prêt à accueillir les activités du 14e sommet. Ici, le travail à faire est immense.
Merci Michel Kifindango. Une notée. Se porte d'une population de plus de 890 millions d'habitants et de 220 millions de locuteurs de français de par le monde, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 75 États et gouvernements qui la composent, dont 56 membres et 19 observateurs, soit plus du tiers des États membres des Nations Unies, dont une vingtaine de pays africains. Professeur Isidore Ndaïwel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, professeur, d'avoir accepté notre invité. Vous êtes commissaire général du 14e sommet de la francophonie Kinshasa 2012. Professeur, en termes de préparatifs, où en sommes-nous à ce jour?
Eh bien, je tiens à vous rassurer que les préparatifs vont bon train. Nous avons déjà identifié les différentes localisations géographiques pour cette grande manifestation. Vous-même, vous venez d'en donner les précisions. Mais nous avons également travaillé sur les préalables. Il fallait d'abord qu'il y ait une date qui obtienne le consensus de tout le monde. Il fallait qu'il y ait une identité visuelle, parce que dans la pratique de la francophonie, il faut une identité visuelle à chaque sommet. L'identité visuelle que nous appelons également le logo, ça a été fait. Il fallait surtout se mettre d'accord sur un thème. Et cela a également été fait. Nous avons par ailleurs mis au point le programme de toutes les manifestations qui vont être présentées ici même à Kinshasa et dans certaines villes du pays d'ici jusqu'en octobre. Et par ailleurs, notre chronogramme de la réalisation des différentes étapes de ces préparatifs a également été adopté. Donc nous sommes là véritablement maintenant dans la phase surtout de travailler sur les infrastructures, parce que au niveau purement intellectuel, les choses sont déjà bien tracées et bien faites.
Professeur, vous êtes au niveau des infrastructures et les préparatifs vont bon train. On se souvient qu'à Montreux, en Suisse, cette ville a accueilli plus de 3000 représentants de 70 États et gouvernements. Pensez-vous que nos infrastructures ici sont en mesure d'accueillir pareil effectif?
Affirmatif, c'est l'avis de tout le monde. Je vous rappelle d'ailleurs que Montreux n'a même pas eu autant de temps que nous, puisque ce sommet, ce 13e sommet, aurait dû avoir lieu d'abord à Madagascar, et donc c'est en dernière minute que tout a été finalement renvoyé vers la Suisse, vers Montreux. Mais nous avons absolument les infrastructures de base. J'aime toujours rappeler qu'il y a déjà eu 4 sommets en Afrique. N'est-ce pas? Grand B à Maurice, mais avant Maurice, il y a eu Dakar, il y a eu Ouagadougou, il y a Cotonou, et je pense que nous ne sommes pas le plus mal nantis en ce qui concerne les infrastructures. Notre salle du Palais du Peuple a été considérée comme une des plus grandes salles dans lesquelles il y aura ouverture du sommet. Nulle part ailleurs, le sommet ne s'est ouvert sur une salle aussi vaste pouvant accueillir 3500 personnes, par exemple. Le Palais du Peuple, le Palais du Peuple, c'est cela. La cité de l'Union africaine est jugée suffisamment confortable pour les chefs d'État, y compris la cité du Gulfe, qui est non loin de là. Et nous avons surtout quelques soucis en ce qui concerne la route de l'aéroport. L'aéroport lui-même est tout à fait bien fait, il n'y a rien à en dire. Mais nous avons quelques problèmes pour la route, pour lesquels les travaux vont être maximisés pour que ça se termine avant le sommet.
Alors professeur, en ce qui concerne le thème, qu'est-ce qui a été choisi à cet effet?
Le thème, c'est francophonie. Enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale.
Alors, peut-on parler également du budget, professeur, si ce n'est pas violer le secret des dieux?
Mais en ce qui concerne le budget, je pense que nous devons attendre que les instances nationales, officielles, puissent statuer là-dessus. Vous savez vous-même que sur le plan parlementaire, il n'y a pas eu encore l'adoption du budget. Donc, dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous pourrions donner le chiffre exact. Donc, jusqu'à présent, nous travaillons sur base de quelques dotations qui sont mises en notre faveur. Mais nous ne pouvons pas encore donner le chiffre global parce qu'il faut attendre que notre budget soit réellement adopté au niveau des instances nationales.
Professeur, la RDC est-elle ou sera-t-elle la seule à supporter ce budget ou, à part les dotations dont vous parlez, certains pays pourront y contribuer également?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Les États qui veulent nous soutenir peuvent le faire. Nous avons reçu déjà la visite des Canadiens, des Québécois, vous l'avez suivi, au niveau des informations. Nous allons avoir en début du mois d'avril une délégation du ministère français des Affaires étrangères. Ils voient tel que nous sommes, nous leur montrons la situation qui est nôtre. Libre à eux de nous dire s'ils veulent apporter une contribution sur tel ou tel secteur. C'est là notre position et nous pensons qu'il y en aura. Nous savons que nous avons déjà entendu parler par indiscrétion d'un certain nombre d'éléments, mais nous attendons qu'officiellement ils puissent se prononcer sur des appuis et qu'ils veulent bien apporter à notre organisation.
Je présume, professeur, qu'en votre qualité de commissaire général du 14e sommet de la francophonie Kinshasa 2012, vous avez une idée sur les prévisions budgétaires, qui peuvent s'élever à combien?
Mais nous avons une fourchette pour les sommets, l'organisation des sommets dans le monde. Donc, on sait que les sommets coûtent à peu près entre 30 et 40 millions d'euros. Donc nous serons probablement un peu en dessous ou un peu plus suivant les exigences qui seront portées et concrètement au niveau de nos activités.
Merci professeur. Le temps de donner la parole à Madame Angèle Makombo, membre de l'opposition et présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais. Madame Makombo, vous avez suivi le professeur Isidore Ndaïwel. Comment vous percevez les préparatifs du 14e sommet de la francophonie Kinshasa 2012?
Merci beaucoup de me donner la parole. Juste une petite précision. Donc, je suis présidente de la Ligue des démocrates congolais, mais également porte-parole et vice-présidente des forces de l'opposition réunies au Congo, en sigle FORECO. C'est la plateforme politique soutenant Léon Kengwadondo. Précision donnée, je voudrais tout d'abord aussi dire que l'entreprise très louable d'organiser le sommet de la francophonie dans notre pays ne doit pas être perçue comme une question opposant les Congolais, opposant la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre. C'est vraiment une entreprise que tous les Congolais doivent embrasser parce que c'est un défi majeur pour notre pays et c'est une fierté d'organiser cela et tous les Congolais devraient vraiment se concentrer, joindre leurs efforts pour qu'on réussisse ce sommet. Ça, je tenais à le dire, et de la réussite de ce sommet jaillira beaucoup de bénéfices pour notre pays. Et j'ai écouté le professeur Ndaïwel, commissaire général du sommet, avec beaucoup d'attention. J'ai entendu ses assurances, donc j'espère réellement que les préparatifs vont bon train. Mais j'ai quand même des soucis. Je me dis, sur le plan intellectuel, il nous a dit que les choses ont été précisées. Les infrastructures, on les a, mais il faudrait peut-être peaufiner certaines. mais le souci que j'ai, c'est au niveau de la communication. Une telle entreprise comme un sommet d'une telle envergure ne peut réussir que si les moyens de communication sont bien là, à la disposition de ces nombreux chefs d'État et de gouvernement qui seront là, mais également le monde des médias. Alors, où en sommes-nous? Et j'ai ce souci parce que j'ai lu récemment dans la presse que nous avions beaucoup, beaucoup de retard par rapport à l'installation de la fibre optique qui permettrait justement de nous faciliter la vie sur le plan Internet, etc. Et un autre gros souci que j'ai en tant que citoyenne de ce pays, c'est l'insalubrité de notre ville, de notre capitale. Vous le savez certainement, malheureusement, on nous a collé le label Kinshasa, la capitale la plus sale du monde. Est-ce qu'au moment du sommet, dans 6 mois en octobre, les autorités locales de la ville de Kinshasa auront fait les efforts nécessaires pour que notre ville, notre capitale, soit présentable? Et je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer et dès maintenant qu'il faut aussi apprendre à la population les enjeux de ce sommet pour que nous nous y mettions tous, pour que notre ville, notre capitale soit présentable. Donc, à part cela, bon, je m'en tiens à ce que le professeur Ndaiwel nous a dit sur le plan des préparatifs quant à les aspects intellectuels et infrastructures, et j'espère que les autorités compétentes mettront les bouchées doubles pour que on ait vraiment un sommet de la francophonie réussi dans notre pays.
Madame Akombo, le professeur a ajouté un autre souci, c'est celui du budget. Comment vous analysez cet aspect?
Et oui, ça c'est un élément fondamental. Là, c'est un gros souci, effectivement, parce que bon, le Parlement n'est pas encore tout à fait en fonction, donc nous espérons que les choses de ce côté-là vont avancer et que s'il y a aide ou bien apport ou contribution à suggérer, à solliciter d'autres pays, que ces sollicitations seront faites à temps, pour que nous puissions disposer des fonds nécessaires pour organiser ce sommet de façon convenable.
Dans une conférence de presse dernièrement, je lui donnerai également la parole au professeur Ndaiwel, il interviendra sur ça. Il avait appelé la classe politique congolaise à harmoniser ses vues afin d'aplanir le terrain pour l'organisation de ce sommet. Pensez-vous que le contexte politique actuel en RDC pourrait influer sur l'organisation de ce sommet?
J'espère en tout cas que d'ici le sommet, parce que c'est quand même dans 6 mois, que les tensions perceptibles dans le pays pourront être aplanies. Et je pense qu'on verra plus clair si dès que nous aurons un gouvernement établi. Et c'est vraiment mon espoir que les choses... Mais j'ai bon espoir quand même que d'ici là, les choses se seront mises en place et que les uns et les autres comprendront l'enjeu de ce sommet et l'importance pour nous, Congolais, et pour notre pays, de réussir ce sommet.
Merci, Madame Angèle Makombo. Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président du Réseau national des professeurs et enseignants de français. D'après le site de la Francophonie, on estime à 900 000 le nombre des professeurs de français dans le monde. Comment êtes-vous organisé par rapport à la tenue de ce sommet? Êtes-vous déjà mobilisé, sensibilisé à cet effet?
Oui, merci pour la parole que vous nous accordez. J'aimerais d'abord dire en réaction à l'intervention du professeur Ndaiwel Isidore, que le sommet de la francophonie, à notre entendement, au niveau du RENAPEF, nous pensons que ce sommet ne doit pas être réduit à une occasion des réhabilitations de certaines infrastructures. Et ce sommet ne doit pas non plus être un simple ballet diplomatique des politiciens. Nous pensons également que ce sommet ne doit pas être une simple rencontre grandiose des politiciens, mais plutôt le sommet doit véritablement répondre à la vocation première de l'institution francophonie. Nous savons nous tous que la francophonie, c'est une institution intergouvernementale fondée sur le partage d'une langue et des valeurs communes. Lorsque nous parlons de la langue, c'est bien le français qui nous met ensemble, c'est un patrimoine collectif, mais par ailleurs, les valeurs communes, eh bien, nous avons la solidarité, le respect des droits de l'homme, l'humanisme, le dialogue. Donc la francophonie, c'est une messe à la fois politique et culturelle. Et nous aurions bien souhaité que cette francophonie que les professeurs des Français de la République démocratique du Congo vont devoir accueillir puisse répondre à ce besoin, aussi bien de la politique et de la culture. Alors, comment nous sommes organisés? Eh bien, au niveau du réseau national des professeurs et enseignants des Français, nous sommes en train de nous préparer fiévreusement. Chaque mois, nous nous retrouvons autour des activités scientifiques, intellectuelles et culturelles. Et nous avons déjà recensé près de 1000 enseignants et professeurs des Français qui voudront bien répondre à ce sommet. Mais nous avons quelques craintes parce que jusqu'alors, en tout cas, Madame Makombo tout à l'heure l'a dit, il y a un problème de déficit de communication. La communication ne passe pas très bien et les réseaux comme le nôtre, les associations des professeurs de français ne sont pas davantage consultés, quoique nous ayons déjà envoyé auprès du commissaire et à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation, nos différentes demandes en termes d'implication. Donc nous voulons simplement dire qu'au-delà des politiques, nous n'avons pas besoin d'un sommet VIP qui ne regrouperait que de grandes personnalités, mais le sommet doit aller plus loin, répondre également aux attentes de la population. Et au niveau du RENAPES, je crois que nous faisons ce travail-là.
Donc, à vous comprendre, Jean Bosco Pouna, vous n'êtes pas encore associé à l'organisation de ce sommet.
Mais vous devrez comprendre que lorsque nous prenons les aspects culturels, par exemple, parce que la francophonie, il faut observer là où on l'a organisé. Eh bien, jusqu'à ce jour, je crois qu'on n'a pas encore vulgarisé les différentes recommandations de Montreux. Donc, ça, c'est un problème. Et lorsqu'on tient le sommet de la francophonie, il y a trois grands enjeux. Vous avez les enjeux sociopolitiques, ça, c'est réservé, bien naturellement, aux politiques et à la société civile. N'oubliez pas que nous avons un problème post-électoral. Ça sera l'occasion à nos politiciens et à la société civile à pouvoir aborder cette question au regard des grandes personnalités qui viendront, sûrement, qu'on pourra avoir des propositions, des voies de sortie de la crise que nous avons dans le pays. Mais il y a également le problème d'enjeux culturels et littéraires. La francophonie, je le disais, c'est une grande rencontre politique et culturelle. Sur le plan culturel, nous devons être en mesure de démontrer qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Est-ce que nos artistes, nos écrivains, les professeurs de français, est-ce qu'ils sont capables de pouvoir participer à ces rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir? Il y a beaucoup de gens qui viendront chez nous et donc nous devons être capable de pouvoir produire, de pouvoir présenter lors des expositions des expériences importantes qui pourraient attirer l'attention des autres. Mais nous avons également les enjeux pédagogiques et didactiques. Vous savez, à ce niveau-là, l'une des missions de la francophonie, c'est appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement et la recherche. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons que le français est en perte de vitesse et donc ça sera l'occasion que notre pays puisse mettre toutes les batteries pour que ces différents enjeux soient plus ou moins poursuivis et atteints au regard même de la thématique générale. Parce que la thématique, me semble-t-il, est trop savante. Francophonie, enjeux gouvernemental et économique face à la gouvernance mondiale. Donc il faut absolument que le commissaire général communique avec les associations des professeurs de français qui sont sur le terrain, mais aussi avec les différents écrivains, tous les démocratie, c'est que nous avons besoin de tous ces mondes-là pour que le sommet puisse réussir, notamment sur le plan culturel.
Je redonne la parole au professeur Ndaïel tout à l'heure, mais Jean-Bosco Kouna, vous évoquez le contexte politique. N'y a-t-il pas à craindre, par exemple, que les politiciens congolais profitent de cette occasion pour se régler les comptes?
Bon, se régler des comptes, je crois que ce n'est pas le cas de le dire, parce que il est clair que cette institution qui au départ était foncièrement linguistique et culturelle avait bel et bien évolué pour embrasser la politique. Et donc, je crois que c'est une chance que notre pays organise le sommet en ce moment où nous sommes en train de vivre des moments très difficiles, de traverser des moments très difficiles. On ne peut pas se régler les comptes. Je crois que nous tous, nous devons accueillir le sommet. Mais ce qui est plus important à faire, c'est que dans le volet sociopolitique, il faudrait suffisamment que nos hommes politiques soient en mesure de comprendre que le sommet est capable de pouvoir nous mettre ensemble. Parce que déjà, au niveau de la langue, nous sommes ensemble, et bien au niveau des valeurs que la francophonie véhicule, nous pouvons être ensemble. Il faut absolument un dialogue entre politiciens pour que ce sommet puisse véritablement bien se tenir, et ça nous paraît très important.
Professeur Isidore Ndaïel, vous avez suivi Mme Akombo et Jean-Bosco Kouna qui sont revenus sur l'aspect communication. Qu'est-ce que vous répondez?
Je voudrais d'abord saluer les deux interventions qui sont pertinentes, spécialement le propos de Mme Akombo. Je pense qu'elle a mis également le doigt sur les points sensibles dans notre organisation. Mais l'essentiel pour nous est que chaque Congolais, comme elle a plus ou moins dit, se sente responsable de ce qui va arriver. Et donc nous devons tous faire en sorte que les préparatifs aillent bon train. C'est vrai qu'au niveau de la communication, on a quelques soucis, mais vous avez quand même noté tous les efforts que nous avons faits. D'abord, nous avons réuni une rencontre il n'y a pas longtemps, ici à Kinshasa, avec l'ensemble de la presse pour leur donner les informations de base sur la francophonie et sur le sommet, et également pour demander leur implication dans cette opération. Nous savons par ailleurs qu'au cours de l'année, nous allons avoir les assises de l'Union internationale de la presse francophone, qui se réunira ici même à Kinshasa au mois de septembre. Ce sera donc également une occasion formidable de communiquer. Je dois également dire que nous avons été approchés par, naturellement, par TV5, qui devra d'ailleurs assez récemment installer quelques antennes ici dans d'autres villes, notamment à Lubumbashi, et qui d'ailleurs pour la période même du sommet devrait pouvoir émettre à partir de Kinshasa. Il faudrait donc que tous nos amis de la presse, toutes les institutions de la presse, presse locale, presse internationale, puissent prendre, je dirais, ce dossier à cœur et qu'ils puissent organiser dans ce sens. Il en est de même de l'insalubrité. Il ne faudrait pas qu'on puisse tout simplement, la veille du sommet, chercher à balayer les rues. Je pense que c'est au quotidien que nous devons prendre déjà les bonnes habitudes pour évidemment essayer de faire en sorte que la ville soit plus propre. Et là, je rejoins tout à fait les observations qui ont été faites. Pour Monsieur Jean-Bosco Kouna, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. N'oubliez pas qu'il y a deux choses. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a le sommet des chefs d'État. C'est le sommet des chefs d'État. Lui-même, comme moi-même, nous ne sommes pas conviés au sommet puisque nous ne sommes pas chefs d'État. Mais ce dont il faut parler, c'est qu'il y a tout un calendrier des manifestations d'environnement et d'accompagnement du sommet. Donc, fort heureusement, le sommet de la francophonie ne se déroule pas comme l'Union africaine ou comme l'ONU. Ici, il y a toujours des activités culturelles. Alors, il y a deux types d'activités. Il y a les activités labellisées par la francophonie, des activités organisées par la francophonie, et puis il y a aussi des activités privées. nous avons dit que nous commençons ces manifestations le 20 mars, par la semaine de la francophonie, ça a été fait. Nous avons maintenant toute la série d'activités qui vont se dérouler, notamment le festival des langues au mois de mai, la remise du prix international Kadima pour la promotion des langues africaines, un colloque international au mois de mai, un autre de l'Agence Université de la Francophonie au mois de septembre. Nous avons un forum sur les questions d'innovation dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Nous avons un congrès des écrivains francophones à Lubumbashi. Nous avons un festival francophone à Kisangani. Nous avons toute une série de choses. Nous avons également notamment l'association des maires francophones qui tiendra ses assises ici à Kinshasa. Donc il y a là tout un programme. Donc si les professeurs de français ont un projet précis dans ce contexte, nous sommes preneurs, d'autant que au mois de juillet se déroulera à Québec le Forum international de la langue française.
Professeur Ndaïwel, il y a certains observateurs qui estiment que le pays est en crise. Le dialogue politique serait-il un préalable pour la réussite de ce sommet? Très brièvement, je vous en prie.
Certainement pas. Ce qui est un préalable, c'est que les Congolais se mettent ensemble, qu'ils le sont, pour considérer que leur pays constitue un élément important dans la vie internationale et dans la vie africaine et panafricaine, et qu'on ne peut pas se permettre de discréditer impunément son pays, de mettre en cause son pays, de détruire son pays. C'est quelque chose qui est tout à fait inadmissible. Certes, sur le plan interne, nous aurons toujours à discuter, nous aurons des débats politiques, nous aurons parfois même des incompréhensions politiques. Mais ça, c'est de tout autre ordre. Mais l'essentiel ici consiste à ne pas mélanger les choses.
Merci, professeur.
On ne peut pas mettre en cause l'existence du pays parce qu'on a un problème politique.
Merci, professeur. Notez que les points de vue des Kinois sont divisés quant à la tenue de son 14e sommet dans la capitale congolaise. Si les uns pensent que ce sommet permettra à la RDC de se hisser sur la scène internationale, les autres, par contre, estiment que la francophonie est tout simplement une caisse de résonance de la politique étrangère de la France. Ces quelques Kinois s'expriment au micro de Paul-Félicien Mangana.
Nous attendons beaucoup de cette tenue de la francophonie à la RDC, dans l'espoir que cette francophonie pourrait encore permettre à la RDC d'être vraiment un pays émergent, d'avoir sa place qu'il lui faut en Afrique centrale.
Nous n'attendons rien de spécial parce que la francophonie, en fait, est une machine de la politique étrangère d'un pays donné, c'est la France.
Nous sommes ici dans notre pays, un pays francophone, dans le domaine de l'emploi. Pour être embauché, on exige nécessairement la maîtrise de l'anglais. Car quelque sorte, nous sommes un peu déçus de la francophonie.
C'est ce que nous pouvons attendre de cette grande messe culturelle politique, montrer à la face du monde que sur le plan culturel, nous avons aussi à donner, nous avons aussi à recevoir.
C'était juste un balai diplomatique pour les tenants du pouvoir.
Maintenant, la francophonie est devenue plus politique que culturelle, si bien qu'on ne voit pas l'apport de la francophonie dans leur soutien aux professeurs de français.
Madame Angèle Makombo, d'après vous, que gagnerait à la RDC? Vous avez suivi certains compatriotes de Kinshasa. Que gagnerait la RDC sur le plan politique, socio-culturel et économique?
Pour moi, la RDC gagnerait énormément à tenir ce sommet de la francophonie, ce 14e sommet, et à le réussir. D'abord, je vois que ça nous permettrait de accroître notre ouverture diplomatique. Et n'oubliez pas que sur la scène politique internationale, la RDC est souvent épinglée. Et nous sommes toujours un pays post-conflit et pouvoir tenir un tel sommet et réussir prouverait qu'il y a un retour à une certaine stabilité. Donc je vois vraiment beaucoup d'avantages et ça permettrait aussi de voir où on est, où en sommes au point de vue infrastructure. Mais la francophonie, ce n'est pas seulement le partage du français, comme nous avons eu à le rappeler, c'est le partage de certaines valeurs. la démocratie, les droits de l'homme, la promotion du développement durable. Et ce grand rendez-vous permettra également de faire le point sur ces grandes questions, savoir où nous en sommes dans le pays hôte. Et là également, ça nous permettra de nous expliquer, de faire valoir les grands axes de notre politique dans toutes ces questions-là. Moi, j'y vois beaucoup d'avantages. Et économiquement, nous sommes l'un des plus grands pays francophones, sinon le plus grand. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, a eu à dire que l'Afrique, c'est en fait l'avenir de la francophonie. Moi, j'irais plus loin en disant la RDC est l'avenir de la francophonie. C'est un enjeu majeur. Et imaginez si nous ne réussissions pas ce sommet. Qu'est-ce qu'on dirait? Encore une fois, la RDC s'est plantée, la RDC, etc., etc. Donc, c'est un véritable, comme je l'ai dit au départ, un défi que tous les Congolais, ensemble, nous devons avoir le souci de relever et de gagner. Et nos différences, nos querelles ne s'en iront pas pour autant, mais on peut, face à un événement de cette importance, se mettre ensemble et pour dire que nous allons le relever et en le relevant, notre pays aussi donnera une autre image de lui-même. Donc je vois beaucoup d'avantages si nous relevons le défi.
Madame Akombo, vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Chef des travaux, Jean-Bernard Mideko, Mbandaka, province de l'Équateur. La RDC ne gagnera pas grand-chose car ni la France ni les autres pays francophones ne feront quelque chose pour ce pays. Et les Congolais commencent eux-mêmes à aimer leur pays avant de songer à l'apport des autres. La francophonie ne va pas combattre la corruption ni inspirer la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme dans ce pays. Il vient aux Congolais à prendre leur destinée en main pour assurer le développement de ce pays.
Réaction, Madame Akombo.
Je pense que l'intervenant ne saisit peut-être pas tellement les enjeux. Lorsqu'on organise un sommet de cette envergure dans son pays, on ne prétend pas en l'organisant que les autres vont venir à notre rescousse et résoudre nos problèmes. Évidemment, nous avons pas mal de problèmes à résoudre dans le pays et il appartient à nous, Congolais, à les résoudre. Mais nous appartenons à un monde globalisé et ce genre de sommet, c'est l'occasion effectivement d'échanger avec les autres et de dialoguer avec les autres, de voir ce qui se fait chez les autres et ensemble d'avancer. Je ne pense pas que organiser un sommet veut dire qu'on attend tout des autres, absolument pas. Merci. Mais on peut, en se disant, voilà, nous, par exemple, sur les questions comme la démocratie, les droits de l'homme, voilà où nous en sommes, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Que sont les autres? Quelles sont les pistes que nous pouvons suivre? Et nous échangeons. Et de l'échange jaillira le progrès et la lumière.
Merci, Madame Akombo. Jean Bosco Puna, il y a Luc Langopati de Dar es Salaam en Tanzanie qui dit: je trouve qu'organiser un sommet de la francophonie apporte peu d'avantages aux Congolais. C'est comme organiser un grand concert de musique. En effet, le français est en train de perdre sa valeur et c'est la France qui encourage tout cela. Aujourd'hui, il y a des universités françaises qui exigent aux candidats qui postulent pour certains cours d'avoir des connaissances d'anglais, chose qui ne se fait pas dans les pays anglophones.
Oui, mais nous l'avions relevé. Nous avions, à l'introduction, dit exactement que le français est en perte de vitesse dans notre pays. Nos élèves parlent de moins en moins français, les étudiants parlent de moins en moins français, et donc là, il y a un déficit des politiques de promotion de la langue française. C'est vraiment patent. Et donc, je crois que l'ami qui intervient a tout à fait raison. Et c'est pourquoi nous voulons interpeller le commissaire. Il a une grande charge de pouvoir conduire tous les programmes au niveau de la RDC. Nous aurions aimé que le professeur Ndaiwel puisse, pourquoi pas, vulgariser ces programmes afin que nous puissions nous approprier ces programmes parce que nous apprenons tout ce qu'il vient de dire à la radio, mais au niveau des professeurs de français, en tout cas, nous ne sentons absolument rien. Et lorsque vous considérez, par exemple, l'aspect pédagogique et didactique, vous allez bien vous rendre compte, chez nous, en République démocratique du Congo, par exemple, les alliances françaises qui avaient vocation à pouvoir promouvoir l'enseignement du français à toute la population, hein, nous ne parlons pas simplement de la francophonie de l'élite, mais nous parlons également de la francophonie du peuple. Eh bien, toutes ces alliances françaises sont aujourd'hui presque en faillite. Vous voyez ce qui se passe au niveau des alliances franco-congolaises à Kinshasa, ça ne marche plus. Et par ailleurs, on a parlé des associations des professeurs du français. Toutes les structures qui doivent promouvoir la langue française, eh bien, ces structures ne sont pas appuyées. Donc, nous disons simplement au commissaire général qu'il puisse considérer toutes les organisations qui travaillent dans le secteur de la promotion du français pour que nous tous, nous puissions jouer un rôle. Nous avons par ailleurs un programme par rapport à la table ronde des professeurs de français et je crois que là nous reviendrons sur les différents obstacles à la promotion de cette langue et ce projet pourra être déposé à la table du commissaire général. Mais n'oubliez pas, et c'est là peut-être que je pourrais terminer, n'oublions pas que la tenue d'un sommet, étant donné que la francophonie, c'est un espace où à cultiver les dialogues, la complémentarité, l'égalité, les droits à la différence même, il faudrait absolument que ces chefs d'État qui vont se réunir avec toute la classe politique congolaise, eh bien, il faudrait que notre classe politique congolaise en profite pour pouvoir cultiver le dialogue qui va devoir relancer le développement.
Merci. Professeur Isidore Ndaiwel, on termine, vous concluez après cette réaction qui nous vient de Collégio Katanga. Voilà, je voudrais que nous allons prendre cette réaction qui nous vient du Katanga pour vous en guise de conclusion, professeur.
Professeur Ignatinala, depuis que les unions Katanga, nous organisons des cadres pour multiples rencontres internationales de divers secteurs du tour. Les éloges nous sont jetés, mais lorsqu'on vérifie l'impact socio-économique des dites rencontres, il y a à repenser notre participation. En effet, devons-nous rester membres de la francophonie pour le fait d'être le premier pays qui parle français ou penser à développer une coopération véritable gagnant-gagnant RDC-France?
Professeur Ndaiwel, en guise de conclusion, devons-nous rester membres de la francophonie ou repenser notre participation à cette organisation?
Mais je peux simplement conclure sur ce point en disant qu'il y a des malentendus et même des méprises. D'abord, ce qu'est la francophonie, il faut qu'on le sache, la francophonie n'est pas la France. La France est un État membre, un simple État membre parmi tant d'autres. Ça, c'est une première chose qu'il faut dire. Il y a en France, il y a dans la francophonie, tous les pays francophones et lusophones d'Afrique. C'est le groupe le plus nombreux. Nous avons quelques pays européens, parmi lesquels la France, c'est vrai, mais également la Suisse, la Belgique, Monaco et pratiquement tous les pays d'Europe centrale et orientale. Nous avons des pays asiatiques, le Vietnam, le Laos, le Cambodge.
Alors, professeur,
c'est un élément d'abord.
Voilà,
Le second élément extrêmement important, je pense, à dire, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le français n'est pas antinomique de l'anglais. Le meilleur partenaire de la francophonie dans plusieurs programmes de coopération dans le monde, c'est le Commonwealth. Et il y a d'énormes programmes qui fonctionnent ensemble. Et je dois également vous dire qu'il y a des pays francophones qui font partie à la fois de la francophonie et du Commonwealth. En Afrique, ici, c'est par exemple le cas du Cameroun, du Rwanda.
Merci,
et le Canada, par exemple, sur les deux, associations.
Merci, professeur. Désolé de vous couper, il me reste moins d'une minute. Madame Makombo, en 20 secondes, votre conclusion.
Je voudrais dire que ce sommet devrait donner l'occasion justement, parce que je me rends compte par les questions posées par les auditeurs, que comme a dit François Ndaïwel, il y a une confusion, incompréhension. Donc ce sommet devrait nous donner l'occasion justement de vulgariser les objectifs de la francophonie.
Merci Madame Jean Bosco Founa, juste un mot, vous n'avez qu'un mot, je vous en prie.
Oui, le sommet de la francophonie doit faire revivre les identités francophones.
Merci, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Capi. À demain, au revoir.